Alors, on va revenir au début. Vous vous rappelez votre début, votre conversion, ce moment où nous avons rencontré le Seigneur, oh là là, quand nous avons débuté une nouvelle vie en Christ. Car la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il reste une vieille créature. » Absolument pas. Il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui est devenu nouveau et qu'est-ce qui fait partie encore de l'ancien dans ma vie? Cette rencontre avec Christ provoque une révélation bouleversante. Tout est touché, notre âme, notre conscience, notre cœur, notre esprit, esprit qui somnolait en nous est comme réveillé. Nous avons une nouvelle sensibilité que nous ne connaissions pas, la sensibilité de l'esprit, du Saint-Esprit, la sensibilité aux choses de Dieu. Et nous avons, dans ces moments-là, vécu bien des choses, peut-être pour certains dans une période longue, pour d'autres dans une période très courte. Une conviction que notre vie n'est pas belle, une conviction qu'il faut en changer, une conviction que la solution, elle est auprès de Christ, une conviction, peut-être un poids, un fardeau, une oppression, et puis peut-être des larmes, le désir vraiment de venir au pied de la croix et de dire « Seigneur, prends tout ça, j'en peux plus, fais-le !» Je ne sais pas si ça a été instantané ou si ça vous a pris des longs moments. Mais à un moment donné, la grâce de Dieu est descendue, son esprit de Dieu, l'esprit de Dieu est descendu sur nous. Et il y a eu comme un fardeau qui a été ôté. Et ce n'est plus des larmes de repentance, mais c'est des larmes de joie qui coulent alors de notre yeux. Parce que notre cœur a été profondément bouleversé et notre esprit ressent la présence de Dieu. Nous avons une nouvelle sensibilité. C'est quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, on ne peut pas expliquer les choses qui touchent notre âme, et encore moins celles qui touchent notre esprit. Il y a des gens qui font des études pendant des années et des années pour essayer de comprendre l'esprit de l'homme, enfin son être intérieur. Moi, je sais une chose, c'est que celui qui m'a formé, qui m'a créé, qui a soufflé sur moi la vie, lui me connaît. Et lui est capable d'intervenir dans ma vie. Alléluia. Alors, ça a été un début, un commencement. Jésus dit qu'il est le chemin. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. Si vous êtes arrêté à ce moment-là dans votre vie et qu'après rien n'a changé dans votre façon de penser, de voir, de ressentir, dans votre façon d'organiser votre planning, dans votre façon d'imaginer le monde, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tout notre être a été touché et à partir de ce moment-là, nous nous engageons à marcher avec Christ. Nous avons changé de maître, nous dit la parole de Dieu. Nous avons changé de maître et cela doit se voir dans notre vie. Et si ça ne se voit pas encore, ou si ça ne se voit pas assez, alors là, nous avons besoin de revenir aux pieds du Seigneur. Nous avons besoin de revenir à la croix. Nous avons tous besoin de ça. Tous. Âme, esprit, quel amour infini nous a touchés. Comment pourrions-nous vivre de la même façon après avoir fait une telle expérience? Et alors, parmi nous, parmi ceux qui ont cru, il y en a qui sont appelés à devenir apôtres, d'autres à prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres enseignants, docteurs. Il y en a certains parmi nous qui sont appelés à devenir anciens, diacres. Il y en a qui sont appelés à devenir prédicateurs, responsables de jeunes, enfin je ne sais pas, vous savez, chantres, musiciens pour la gloire de Dieu. Mais quand ils ont fini leur ministère, lorsqu'ils ont fini leur appel, lorsqu'ils ont fini leur chant, lorsqu'ils ont fini leur prédication, ils rentrent chez eux. Et comme vous, ils se mettent à table, ils mangent. Et comme vous, ils ont besoin de dormir, de se lever le matin avec les yeux plus ou moins ouverts, comme vous, ils ont la difficulté. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. C'est bien d'être dopé par son ministère, par son appel, par la prédication. Mais quand on rentre chez soi et qu'on ferme sa porte, là commence la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale au travail, la vie chrétienne normale dans la vie de tous les jours. Et cette vie chrétienne normale, elle est comment? Elle est comment? Tous, nous avons une vie chrétienne normale, quel que soit notre appel, quel que soit ce que nous faisons dans l'Église. C'est la vie de tous les jours. Est-ce que ma vie, ta vie, la vie de tous les jours est vraiment une vie chrétienne normale? Et où est la normalité? En plongeant nos regards dans la parole de Dieu, dans les Écritures, on va essayer de trouver ensemble la réponse à cette question, ou du moins un début de réponse, parce qu'il faudrait bien sûr plusieurs méditations pour essayer de se trouver sur le chemin de la normalité. Je voudrais faire une remarque d'abord, que ce matin, je ne veux pas créer un sentiment de culpabilité dans vos cœurs. On dit « Ah, tu n'es pas dans la vie normale, c'est pas bien », et qu'on parte de cela avec un sentiment d'oppression. J'aimerais te dire que dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, on peut être un chrétien. On peut avoir une vie chrétienne normale. Au lieu d'avoir une vie normale, plus loin étant chrétien. Ce n'est pas pareil. Et je crois que ça doit nous donner non pas un fardeau, mais un espoir. Non pas une oppression, mais au contraire, élever nos cœurs, à se dire « Oui, j'aspire à ça. Seigneur, avec toi, avec ton aide, je veux vivre cette petite vie, petite, aux yeux des hommes, peut-être cachée souvent, mais une grande vie pour Dieu. Alors nous serons un instrument béni entre les mains de Dieu. » Le livre des Actes, les lettres de Paul, les évangiles, en un mot, le Nouveau Testament, sont une révélation puissante pour nous pour essayer de fixer ce qui est une vie chrétienne normale. C'est là que nous devons chercher la normalité de la vie chrétienne. Et ce n'est pas dans des révélations nouvelles qui sortent tous les jours sur Internet que l'on trouvera ce que c'est la vie normale. Mais nous avons la chance, le privilège de posséder la parole de Dieu. Alors bien sûr, quand je parle du Nouveau Testament, je pense que toutes les Écritures sont inspirées. Toutes les Écritures sont utiles. C'est tout, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a de l'enseignement pour nous. Il y a de la nourriture pour nous. Mais je trouve que pour un moment donné, quand on se met à réfléchir et se dit « Seigneur, c'est quoi que tu veux que je vive dans ma vie de tous les jours ?» Eh bien, je trouve que les Actes des Apôtres, par exemple, sont un enseignement extraordinaire. Et on va se baser d'ailleurs sur le Nouveau Testament, notamment les Actes des Apôtres, pour voir l'aboutissement du plan de Dieu pour l'homme et quel doit être son cheminement. Il est le chemin, donc on a un cheminement. On doit passer quelque part. Christ n'est pas simplement une annonce. Christ n'est pas simplement une étape de notre vie, dans notre conversion. Christ est un chemin. La Bible dit qu'il est la porte. C'est par elle qu'on entre. Et moi, je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je ne veux pas rester à la porte. Je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, on a l'aboutissement du plan de Dieu pour les hommes. Et c'est une base solide, vraiment solide, pour avancer avec des certitudes dans ce qu'est la vie chrétienne normale. Alors, on prendra un autre verset. Il n'y aura pas beaucoup de versets, mais on va l'éplucher, le méditer et se l'approprier, ce verset. C'est dans Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Laissez-moi vous dire que je trouve ici un enseignement sur notre vie chrétienne normale. Nous avons ici une indication importante. Le « il » au pluriel, « il », qui sont-ils ? L'élite ? Les gens appelés ? Non, mais cette multitude qui vient de se convertir, ces 3000 âmes qui se sont ajoutées aux 120 et qui forment l'église de Jérusalem, « il », du plus grand jusqu'au plus petit, du plus jeune jusqu'au plus âgé, de celui que l'on voit monter comme celui qui est arrivé au bout de son ministère et qui va laisser sa place. Ils, ce sont tous les chrétiens. Il décrit pour moi le fait que c'est une vie normale pour tous. Pour tous. Et il m'englobe personnellement aussi. Et le premier mot que l'on trouve après il, c'est il persévérer. La vie chrétienne à l'époque, c'était une vie de persévérance. Une vie de persévérance. Je trouve ici le contraire de la légèreté, le contraire de la nonchalance, de la mollesse, le contraire d'un effet de mode. Oh, aujourd'hui, ce qui est bien, j'ai vu sur Internet, oh, on fait ça. Et la semaine prochaine, c'est, oh, il y a mieux encore, il y a ça. Non, il persévérait. C'est un acte volontaire, c'est réfléchi, c'est être constant, c'est être, comment dire, tenace. On persévère, qu'importe la situation, qu'importe les difficultés, qu'importe s'il faut se laver les mains, le produit alcoolique, mettre le masque ou quoi que ce soit, on persévère. On est là, non pas pour simplement faire la fête, mais on est là dans la persévérance. C'est ça, c'est notre part. C'est la part du chrétien. C'est ma part de persévérer. Et croyez-moi, Dieu fera sa part, lui. Et lui enverra ce qu'il nous a promis. Après la Pentecôte, après les langues de feu, après les parler en langue, eh bien, ses amis avaient persévéré. Après la Pentecôte, il y a la persévérance. La Pentecôte n'enlève pas la persévérance. Après la Pentecôte, il y a eu la persévérance. Nous sommes au chapitre 2 des Actes, 2, 42. Après la Pentecôte, après les langues de feu, après le feu, il y a un moment de persévérance. Dieu a fait sa part et nous, nous avons notre part. La persévérance dans 4 domaines. Excusez-moi, on ne va pas aller trop, on va pas trop s'étendre parce que vous savez comme moi qu'au bout de 20 minutes, de toute façon, on perd l'attention, d'accord ? C'est bien, donc si je prêche 25-30 minutes, on dira « merci Seigneur ». Si j'en prêche 50, on dira « c'était long ». D'accord ? Alors est-ce que c'est long ce matin ? Non ? Alors on continue, on avance. Et cette persévérance... Cette persévérance me fait penser à Christ. Connaissez-vous la dernière promesse de Jésus dans l'évangile de Matthieu ? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, sa dernière promesse, c'est « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » D'ailleurs, juste un aparté dans l'évangile de Marc, la dernière promesse de Jésus, c'est « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et dans l'évangile de Luc, c'est que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans l'évangile de Jean, la dernière promesse de Christ, c'est « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. C'est belle promesse. Maintenant, je voudrais revenir à celle de l'évangile de Matthieu. Jésus a dit « Je serai tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. » On a souvent pris ce verset en se disant « Chouette, Jésus est avec moi !» C'est formidable, il l'a promis, donc il est là. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, je sens sa présence, son action, présence de son esprit. Et pendant que je vous parle, il est au milieu de nous. Il est avec nous. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis là. Mais prenons maintenant la promesse en considérant Christ. Lui, Il se doit d'être là. Il se doit d'être là. Il l'a promis. Et croyez-moi, pour tenir cette promesse, il lui faut de la persévérance. De la persévérance lorsque l'on considère le nombre d'hommes, de femmes qui boitent, qui dévient. Et j'ai été parmi ceux-là. Et de savoir que dans certaines circonstances de ma vie, où j'avais un genou à terre, Christ était quand même là. Je le remercie, je le loue, parce que je sais qu'il a eu de la persévérance. Et cette persévérance, elle sera jusqu'à la fin du monde. Car sachez une chose, c'est que le monde que nous connaissons aujourd'hui passera et qu'un monde nouveau est réservé à ceux qui persévèrent. Amen. Et pas persévérer dans l'erreur, pas persévérer dans le péché, mais persévérer dans la grâce de Dieu. Persévérer dans la grâce de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire des éclats. Il ne nous demande pas de faire des sacrifices. Non. Mais il ne demande pas d'éblouir non plus, pas d'avoir un ministère éblouissant. Non, Dieu nous demande d'être un homme ou une femme simplement extraordinaire. C'est-à-dire un homme et une femme qui suit dans la persévérance et quels que soient les événements, le Seigneur. J'aimerais vous raconter une toute petite histoire. Tant pis si je ne peux pas finir. J'ai rencontré une dame qui m'a donné son témoignage. Elle a perdu son fils de façon terrible. Dieu nous a mis sur leur chemin ce jour-là. Et on a pu leur parler. On a pu les entourer, surtout, et les écouter. Et alors qu'elle avait repris son travail, elle sentait que son corps ne supportait plus le travail, que son âme était brisée. Mais elle est profondément persévérante dans l'amour de Dieu. Et un matin, alors qu'elle s'était levée tôt, qu'elle avait garé sa voiture et qu'elle devait encore traverser tout le parking, elle avait plus la force de se lever de sa voiture. Et là, elle a crié à Dieu, elle a dit, « Fais-moi un clin d'œil, Seigneur. Fais-moi un clin d'œil, s'il te plaît, aide-moi. » Et puis, malgré tout, elle s'est levée et elle a traversé le parking tout doucement, les yeux baissés, pouvant à peine bouger parce qu'elle avait des douleurs dans tout le corps. Parce que son corps était brisé, son âme était brisée, son cœur était brisé. Et quand elle est passée, elle a vu quelqu'un qui était assis là sur un muret, mais elle n'a vu de cette personne que son pantalon. Et alors qu'elle s'éloignait tout doucement, comme ça, elle a eu dans son esprit cette conviction. Dieu lui dit, retourne et va parler à cette personne. Alors elle a fait demi-tour tout doucement et elle s'est présentée devant cette personne. Et elle a dit, voilà, je suis là. Et la personne l'a regardée, mais pourquoi vous êtes là? Alors en d'autres mots, elle a dit simplement, j'ai eu dans mon cœur l'assurance qu'il fallait que je vous parle. Alors je suis là simplement pour vous parler parce que Dieu m'a dit de venir vous voir. Et cette personne s'est mise à pleurer. Elle a sorti un évangile qu'elle lui a remis. Et elle a parlé pendant quelques minutes avec cette personne. Une vie chrétienne normale de quelqu'un qui est brisé et qui obéit malgré tout au Seigneur. Et cette femme qui pleurait a dit « Jamais j'oublierai ce moment ». Elle a été profondément touchée. Pas d'éblouissement, pas d'éclat. Juste se dire « Voilà, je suis là ». Dans ma faiblesse, pour vous dire que Dieu vous aime. Et ça l'a bouleversé. Et notre amie chrétienne est repartie dans son travail. Et elle a travaillé jusqu'à la fin de la journée, sachant que Dieu venait de lui faire un clin d'œil. Une vie chrétienne normale, de quelqu'un qui passe par une épreuve terrible, qui n'en peut plus. Mais Christ est avec lui. Amen. C'est ça l'important. Il y a 4 points qu'on peut voir dans ce verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à la parole, c'est de plonger nos regards dans la parole. J'imagine très bien tous ces nouveaux chrétiens bouillants là. On ne les appelait pas chrétiens encore, mais ces nouveaux disciples de Christ, par petits paquets là, ils suivaient l'enseignement de Pierre, de Paul, Non, Paul n'était pas encore là. De Jacques, de Thaddée, de Jean, d'André, de Philippe. Ils étaient en train d'écouter des choses que même nous n'entendrons peut-être pas. On leur parlait de Christ. On leur parlait de ce qu'il avait fait. On leur parlait de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait enseigné. L'enseignement des apôtres se basait sur leur vie avec Christ. Et si ça se trouve, il y a des miracles que ces gens ont entendus dont on n'a même pas entendu parler. Parce que la Bible dit qu'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a fait. Mais je ne sais pas si le monde entier aurait pu contenir les livres qu'il a écrits. Il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait. Ils allaient dans l'Ancien Testament pour dire, voyez-vous, ce verset, c'est Christ. Quelle révélation, quelle bénédiction. Bref, aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à la parole. Nous avons besoin de plonger nos regards dans cet enseignement des apôtres, dans les enseignements de Paul, que le Seigneur a permis qu'il soit fixé dans toutes ses lettres pour notre édification, pour notre conduite, non pas pour augmenter notre connaissance, mais pour toucher notre cœur. Il persévérait. Je vois dans la persévérance dans l'enseignement non seulement le fait de se laisser enseigner, mais aussi le fait de suivre l'enseignement, de mettre en pratique l'enseignement que l'on reçoit. Il persévérait. Nous avons besoin des ministères appelés par Dieu. Nous avons besoin de la lecture et de la méditation de la Bible. Nous avons besoin de l'enseignement du Saint-Esprit. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous avons besoin des dons spirituels dans l'Église. Nous avons besoin de tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous dans l'Église. Deuxièmement, de la communion fraternelle. Alors, la communion fraternelle, ce n'est pas un banquet de temps en temps, hein, mais on doit persévérer dans la communion fraternelle. Là encore, ce n'est pas évident. Là encore, ce n'est pas facile. Là encore, c'est quelque chose qui nous est demandé. Et Jésus dira, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous mangez une fois par an ensemble. Non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avouez que là, le temps me manque pour développer ce passage. Avouez que là, on touche le cœur de l'Évangile. On touche le cœur de Dieu. La Bible dit « Dieu est amour ». Et si vous voulez relire la première épître de Jean, je pense que jamais quelqu'un a connu autant l'amour de Christ d'aussi près que Jean. Lui qui s'appuyait sur le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Et vous savez, pour moi, le plus dangereux de l'épidémie aujourd'hui, ce n'est pas la distanciation physique, c'est la distanciation spirituelle. C'est la distanciation de l'amour. J'ai besoin de vous serrer. Je vois quelqu'un, j'ai envie de... Et on reste loin. Un petit coup de coude. C'est bien le coude. Ou le poing comme ça. C'est mieux le coude. Hein. Parce que le poing, on ne sait jamais, on a pu le traîner. Hein. Mais le coude, ça va. On a du mal à mettre le coude à la bouche. Vous avez vu? Voilà. Donc ça, c'est bien le coude. Mais surtout, si nous avons la distanciation sociale, qui n'est pas la distanciation d'amour, qui n'y est pas la distanciation de la communion fraternelle. Il persévérait. C'est plus dur, ça, qu'on ne le croit. Quand on se convertit, on aime tout le monde. Et quand on persévère, ah, les caractères ressortent. C'est pas facile. Et quand on ne règle pas avec le Seigneur nos problèmes de communion fraternelle, eh bien, on se retrouve à changer, paf, à essayer de trouver ailleurs ce qu'on n'a pas trouvé ici. Alors que le problème, il est dans notre cœur, dans mon cœur, pas dans le cœur de ceux qui sont partis, dans mon cœur, dans le cœur de ceux qui sont là, non pas de ceux qui devraient être là. Si vous pensez, oh, il aurait dû être là, non, je vous le dis à vous, je le dis à moi, et l'Esprit de Dieu nous le dit ce matin. Nous avons besoin de détermination à persévérer dans la communion fraternelle. L'amour a besoin de persévérance. Si vous n'avez pas compris que l'amour, ce n'est pas un sentiment qui s'entretient, vous êtes en danger. On doit l'entretenir. Il a besoin de persévérance. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce mot fraction du pain. Il y a une autre façon de traduire qui est le partage du pain. Est-ce que ça fait allusion à ce que nous avons fait tout à l'heure en prenant le pain et le vin du Seigneur? Peut-être. Mais je pense que quand même, il y a une dimension extraordinaire dans le partage. Le partage. Le partage du pain avec celui qui a faim. Le partage du pain avec ceux qui nous entourent. C'est plus grand, je crois encore, non pas au niveau spirituel. C'est très grand, il n'y a rien de plus grand que de partager le pain et le vin ensemble ce matin. Mais cela déborde, je dirais, de ce domaine-là, le partage du pain. C'est d'avoir un cœur ouvert vers les autres. Non pas seulement dans la communion fraternelle, mais vers les autres. Aussi vers les autres dans la foi, mais aussi dans les autres qui sont étrangers, orphelins, qui sont persécutés, qui sont malheureux. Combien d'hommes et de femmes perdus à Martigues? Vous savez, voyez-vous le petit nombre qu'on est? Combien de cultes il faudrait pour que tous soient sauvés? Prions pour que nous ayons toujours dans le cœur cette fraction du pain. C'est une action ensemble. Fractionner le pain, ça se fait à plusieurs. Et j'aime beaucoup Internet avec ces prédications que l'on peut écouter lorsqu'on est à la maison en confinement. Mais mes amis, ça ne remplace pas le partage ensemble. Partageons, mettons ensemble. Et ce qui faisait la force de cette première église, c'est qu'ils allaient très très loin dans le partage. Et ils partageaient tout, pas seulement le pain, mais tout. Alors, aujourd'hui, ce que je lis quand même dans ce verset, c'est cette obligation de partager le pain. C'est-à-dire notre pain. Il partageait la prière. Il persévérait dans la prière, pardon. C'est le dernier point, mais ce n'est pas le moins important. Vous savez, c'est un point très révélateur. Est-ce que nous sommes dans une vie standard avec le Seigneur? Ce n'est même pas le mot standard. Normal, dans notre relation avec Dieu. Et là, le mot normal devient extraordinaire. Parce que lorsqu'on recherche Dieu, la persévérance dans les prières, ce n'est pas seulement la persévérance dans les prières ensemble, mais c'est aussi dans la prière pour notre vie même, dans notre secret, dans notre chambre, dans notre cœur. Rechercher la présence. Et si je ne sais pas passer du temps à prier, si après des années et des années de conversion, j'ai toujours du mal à prier, c'est que là, j'ai une petite anomalie qui est grande dans mon cœur. Et je dois aller chercher la présence de Dieu. C'est que je suis en dehors des clous. Si je ne prie pas, je suis en dehors des clous. Jésus dit, je suis le chemin. Il y a un chemin. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'on va faire que des... comme les pharisiens, on est tous pareils, on doit tous s'habiller pareil. Je n'ai pas parlé de vêtements. Je n'ai pas parlé de la façon de vivre, etc. Chacun est différent et heureusement, notre richesse repose sur notre différence et l'extérieur ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais dire, c'est que si je ne prie pas, si je n'ai pas trouvé, par exemple, le temps hier de prier, c'est que j'étais un petit peu à côté du chemin. Et si j'ai trouvé le temps de venir à l'église, mais que je ne trouve pas le temps de prier, je suis aussi et toujours à côté du chemin. La normalité, c'est la persévérance dans la prière. C'est une condition de la normalité. Et si ce matin on prenait cette décision, parce qu'il est l'heure de se séparer, d'avoir une vie chrétienne normale, en persévérant dans ces quatre domaines, moi je voudrais vous dire, ça vaut le coup. Alléluia, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Persévérer dans la vérité, la foi, ouvre la porte à une vie chrétienne normale et cette vie est abondante, cette vie est extraordinaire, La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. L'évangile que j'ai entendu, l'évangile que j'ai cru, l'évangile que j'ai reçu, celui que je suis, ce n'est pas un évangile de printemps, de beau temps, de fête seulement, même si pendant le printemps et la fête, on se réjouit beaucoup, mais c'est aussi un évangile d'automne, d'hiver, de tempête. Ça, c'est l'évangile. Et il nous demande de persévérer dans notre foi et dans ce que l'on croit. Et moi, je veux persévérer. Amen. On passe par des moments extrêmement difficiles en ce moment. Les églises traversent des moments difficiles où les programmes sont presque à l'arrêt. L'évangélisation est de plus en plus difficile, mais nous allons persévérer. Nous allons parler de Jésus, que ce soit avec un masque, avec des gants. Nous donnerons l'évangile et nous dirons, il y a un chemin, il y a une vie chrétienne normale et c'est une vie abondante, riche. C'est une promesse de Jésus et vous aurez une vie abondante. Ce sera une source abondante. Alléluia.